En 1945, si vous voulez, à la Libération, le Conseil national de la Résistance met en place une nationalisation des radios privées qui avaient fonctionné avant la guerre et pendant la guerre, et crée un établissement public qui a le monopole de la diffusion de la radio, qui s'appelle la Radiodiffusion française, la RDF. Assez vite, d'ailleurs, en 1949, ça deviendra la RTF, parce que la télévision a commencé à émettre. À ce moment-là, la RDF puis la RTF ont en gros trois chaînes. France 1, qui deviendra petit à petit Paris Inter, le poste régional qui deviendra France 2, puis Intervariété, et France 3, qui est la chaîne dite culturelle et artistique. Et puis dans les années 50, se crée France 4, qui sera France Musique, et les différentes émissions qui émettent vers l'étranger se regroupent dans ce qu'on appelle France 5. Donc au départ, si vous voulez, ça, ce que je vous décris là, c'est de, en gros, 45 à 1959, 1960, c'est les radios de service public. Et puis existe immédiatement en 1945 une radio périphérique qui est Radio Luxembourg, dont l'émetteur est au Luxembourg, qui a été créée en 1933. Et Radio Andorre, d'ailleurs, qui a été créée en 1935, qui émet aussi à ce moment-là. Et Radio Monte-Carlo, qui a été créée par les Allemands en 1943. Vous voyez, Luxembourg, Andorre, Monaco, ce sont vraiment à la périphérie. Les émetteurs sont sur le territoire de ces États périphériques. Europe 1 se créera en 1955 depuis le territoire de la Sarre en Allemagne. C'est les radios périphériques. Donc jusqu'en 1981 d'ailleurs, on a le service public avec ses cinq chaînes et les quatre radios périphériques que je vous citais là.
Ce qu'il faut préciser, c'est que les émetteurs donc sont à l'étranger, mais les studios sont en France. Pour ces radios périphériques.
Oui, évidemment. Enfin, ils sont en France et aussi à l'étranger. Il y a à Monaco, par exemple, les studios sont totalement à l'étranger, sur le territoire monégasque, à part à Paris, une petite antenne. Radio Andorre, tout est sur le territoire monégasque. Ce n'est que Sud Radio qui finira par avoir des studios à Toulouse. Europe 1, tout est à Paris. Et Radio Luxembourg, l'essentiel est à Paris, mais il y a encore des studios au Luxembourg. Et même pour l'anecdote, si vous voulez, la nuit, les émissions partent de Luxembourg pour justifier que c'est une radio luxembourgeoise, avec y compris des flashs qui sont faits toutes les heures entre 1h et 5h du matin par un journaliste qui est basé à Luxembourg à l'époque.
Les objectifs donnés aux radios de service public de l'époque sont
informer, divertir et instruire. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'au départ, ces radios de service public dépendent jusqu'en 1959, c'est pour ça que je faisais la nuance tout à l'heure, années 50, années 60, directement du budget du ministère de l'Information. On retrouve d'ailleurs dans les archives de l'Assemblée nationale des comptes rendus de débats du budget voté annuellement par les députés, ou après avoir très vite parlé d'argent, on se met à parler, par exemple, des rédacteurs en chef de la radio, et notamment de France 1, Paris Inter, dont on dit qu'ils sont trop MRP, ou trop communistes, ou trop gaullistes, etc., etc. Donc chaque année, ce budget donnait lieu à un débat sur le contenu de l'information de ces radios au sein du Parlement. En 59, c'est détaché du ministère de l'Information pour devenir un établissement public industriel et commercial, un EPIC, la RTF, puis l'ORTF en 1964, qui a un budget autonome.
Est-ce qu'à l'époque, les journalistes étaient indépendants ou est-ce qu'ils étaient encadrés par l'État?
D'abord, une première chose à savoir, c'est qu'un journaliste est indépendant quand il veut l'être, c'est-à-dire quand il résiste aux pressions. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, il faut diviser l'époque en plusieurs moments. Immédiatement après la guerre, il y a une sorte d'accord tripartite entre le MRP, c'est-à-dire les centristes chrétiens, les communistes et les gaullistes, qui veut qu'il y ait, par exemple, rédacteur en chef de chaque obédience. Ça dure pas très longtemps, ça dure les deux, trois premières années de la Libération, et par exemple, le rédacteur en chef communiste, au moment où les communistes quittent le gouvernement du général de Gaulle, sont petit à petit évincés. Et puis se mettra en place petit à petit un service qui a été très connu après, qui s'appelle le service de liaison interministériel de l'information, le SL2I, qui fait la surveillance, pour ne pas dire dicte le contenu, des journaux radio et télévisés. Ce SL2I sera beaucoup plus actif sur le domaine de la télévision que de la radio. Sur le domaine de la radio, le fait qu'il y ait eu plusieurs émetteurs, y compris les périphériques, a tout de suite introduit une concurrence. Mais il n'en reste pas moins que les radios d'État sont à ce moment-là soumises, de par même leur structure, leur conseil d'administration est composé de gens nommés en conseil des ministres, sont soumises à un contrôle du gouvernement pour ce qui est de leur contenu. Il se passe quand même beaucoup de choses de liberté, entre guillemets, sauf en matière d'information. l'information, évidemment.
La durée de vie d'un directeur de l'information ou d'un directeur de la station ?
Non, il ne faut pas regarder les choses d'une façon aussi, comment dirais-je, caricaturale. Vladimir Porcher, par exemple, qui est nommé, je crois, au début des années 50, il va rester presque 10 ans parce qu'il amène énormément de choses, parce qu'il fait la radio. C'est une tension permanente entre le média et le pouvoir politique. Donc, poser la question en termes de durée de vie d'un directeur de l'information, d'abord, je n'ai pas fait de statistiques, donc je vous répondrai des choses fausses et je me garderai bien de les répondre. Et puis, deuxièmement, je pense que dans l'absolu, ce n'est pas ça la question qui est posée. Ce n'est pas ça le problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est quand ces radios sont sur le budget du ministère de l'information, c'est que le média est considéré comme un moyen d'information du gouvernement. Ça change un petit peu quand ça devient un établissement public autonome, puisque ça devient non plus le moyen d'information du gouvernement en théorie, mais le moyen d'information des Français. Mais il n'en reste pas moins que le gouvernement continue à avoir un contrôle qu'il gardera jusque dans les années 70.
Au niveau des radios donc périphériques, celles qui émettent dans grandes ondes depuis l'étranger, elles étaient détenues par qui ? Et est-ce qu'elles avaient un objectif particulier d'être une alternative à la radio publique ?
Alors ça, c'est l'objectif, je dirais, purement politique et philosophique et qui est tout à fait vrai, qui était marqué. Ce n'était pas le cas au départ de Radio Luxembourg, qui est une radio de l'État luxembourgeois qui petit à petit sera rachetée ensuite par une société privée. Quand Europe 1 se crée sur la base de capitaux privés, mais l'État finit par prendre une participation à travers une société de financement de la radio qui s'appelle la Sofirad. Pour ce qui est par exemple de Radio Monte Carlo, c'est une création des nazis en 1943 avec un capital divisé un tiers le gouvernement allemand, un tiers le gouvernement monégasque et un tiers le gouvernement de Vichy. À la libération, les deux tiers nazis et vichysois sont récupérés par l'État français dans le cadre de la Sofirad et un tiers reste contrôlé par le gouvernement monégasque, même un peu plus. Europe 1 est créée comme une radio privée, financée par la publicité et par des actionnaires privés.
Il y a une période intéressante, c'est mai 68. Est-ce qu'on pouvait constater une différence de traitement selon qu'on était une radio publique d'État ou une radio périphérique ?
Alors, il faut diviser mai 68 à la radio, et là je parle de France Inter, en deux périodes. Il y a la période qui va du début de mai 68 à peu près la fin du mois de mai, qui est une période de très grande liberté au sein de la radio de France Inter. C'est-à-dire qu'au sein de la rédaction de France Inter se crée un comité de journalistes qui refusent de se mettre en grève parce qu'ils estiment que leur rôle et de leur fonction, c'est d'informer les grévistes et la population de ce qui se passe. Et ce comité est imposé à la direction de France Inter et va même à un moment donné co-diriger l'information avec la direction. Ça dure 15 jours, 3 semaines à peu près. Et à ce moment-là, la couverture et la qualité politique, je dirais, pluraliste de l'information est assez grande sur les antennes de cette radio. Et puis arrive un moment où la reprise en main se fait et là, le comité en question est mis de côté, chassé, si je puis dire, par la direction de la radio, qui reprend son pouvoir au sens traditionnel et qui le reprend même avec beaucoup de virulence, puisque les journalistes de France Inter sont invités à rester tous chez eux et seront rappelés un par un pour savoir s'ils peuvent ou pas continuer à travailler pendant cette cérémonie, si je puis employer cette expression, va durer quelques jours. Et certains ne seront pas appelés tout de suite et seront finalement ou mutés contre leur gré ou licenciés. La même chose s'est produite à la télévision, à cette différence près que la télévision n'a jamais réussi à faire ce qui avait été fait à France Inter, c'est-à-dire pendant 10-15 jours, ce comité, composé d'ailleurs de 3 personnes élues par la rédaction, qui était l'interlocuteur de la direction et qui définissait avec elle la couverture de l'actualité. Voilà comment ça s'est passé en radio. Sur les autres chaînes du service public, bien, globalement, la grève a été faite. Certains journalistes ou certains personnels ont continué à travailler dans des conditions plus ou moins aisées, mais la grève a quand même été assez forte.
Et au niveau des radios périphériques, le traitement de mai 68 ?
Alors, au niveau des radios périphériques, le traitement de mai 68 a été plus libre. Il n'y a pas eu ces deux phases que je vous décrivais. Il a été quand même assez contrôlé, puisque après la nuit des barricades du 25 mai, où on avait vu les voitures de reportage des radios périphériques servir à un moment donné de point de relais pour engager un dialogue entre, par exemple, des manifestants, je crois que c'était Jacques Sauvageau, si ma mémoire est bonne, et les représentants de l'université, voire de l'État, où le compte-rendu de ce qui se passait minute après minute était fait en direct par des journalistes. Le gouvernement a informé les stations périphériques que si elles continuaient à faire ce type de reportage et d'émission, la liaison qui leur permettait d'envoyer ce qui partait de leur studio vers les émetteurs en SAR, par exemple, ou au Luxembourg, serait coupée. Et donc, ça a diminué, calmé, entre guillemets, l'indépendance des radios périphériques. Mais jusqu'au bout, les journalistes de ces radios ont continué à faire une information qui était moins contrainte que celle de France Inter, qui a subi une répression excessivement violente.
Certaines conceptions du journalisme telles qu'a pu l'incarner Michel Droit et bien d'autres.
Bon, Michel Droit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Michel Droit, c'est un journaliste qui travaillait, je crois, à l'époque en partie au Figaro, il faudra le vérifier, et qui a été désigné pour faire l'interview du président de la République Charles de Gaulle en 1965, lorsque Charles de Gaulle a été en ballotage. Et Michel Droit s'était livré à une interview passe-plat, on dira, pour être poli. Il a d'ailleurs été très largement suivi par beaucoup d'autres personnes qui ont fait la même chose ces 50 dernières années. Les interviews de complaisance, ça n'a pas cessé en 1968 ou en 1981. Ça a continué après. Mais enfin, Michel Droit, c'est vrai, a été un petit peu quelqu'un qui a symbolisé ce mode de fonctionnement. Mais je pense que ça serait une erreur de focaliser sur une personne. C'était un système et il y avait, y compris parmi les gens qui étaient nommés, vous me parlez de la radio, il y avait des gens de très grands talents journalistiques. Je pense à une dame comme Jacqueline Baudrier, je pense à un homme comme Pierre Fromentin, qui ont été d'excellents journalistes et qui ont formé et ont contribué à former des générations de journalistes. Un homme comme Édouard Guibert a été recruté à France Inter par ces personnes-là, mais qui étaient, je dirais, fondamentalement, idéologiquement, des gens qui étaient proches du général de Gaulle et de ce qu'était, à cette époque-là, la majorité. Et donc, qui jouaient un rôle, ils vous disaient, et ils disaient, je ne reçois pas d'ordre, parce qu'ils considéraient comme assez normal que la politique du gouvernement soit très largement présentée à l'antenne. Mais il n'en reste pas moins que c'était de très bons journalistes qui ont formé de très bons journalistes. C'est quelque chose de difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont beaucoup gagné en autonomie et en indépendance et se sont beaucoup détachés des appartenances politiques ou des pensées politiques qui peuvent être les leurs. C'était moins le cas à l'époque.
Michel Droit était bien au Figaro Magazine.
Oui, j'en étais pas complètement sûr, mais j'étais moi-même syndicaliste dans les années 60-70, enfin, à partir de 70, j'ai eu l'occasion de dire à Michel Droit et à d'autres personnes du même profil ce que je pensais d'eux, mais il n'en reste pas moins que c'était des professionnels, mais c'était un professionnel, si vous voulez, qui faisait son travail au service du général de Gaulle, voilà, et pas au service de la nation, clairement. Mais en même temps, pour lui, la nation se confondait avec le général de Gaulle.
J'ai anglais, comme on dit, cette interview sur le traitement de l'information dans ces différents médias, mais il y avait plein de programmes de divertissement, de jeux et d'antennes libres aussi durant toute cette période d'avant 80.
Alors, je ne sais pas quel contenu il faut mettre l'expression antenne libre, mais en tout cas, oui, vous avez parfaitement raison de dire cela, parce que je pense qu'avec le recul, on est beaucoup, notamment nous les journalistes, sur l'aspect politique et contrôle du contenu de l'information. On oublie quelque chose d'essentiel, c'est que dans cette période-là, en tout cas dans les années 50 et 60, jusqu'en gros 65 à peu près, la radio est l'élément principal de loisirs et d'information des Français. La télévision balbutie. La télévision, c'est 5 000 téléspectateurs en 1950. Je dis bien 5 000. Et c'est quelques millions à la fin des années 50. Donc la radio est au centre de la vie des Français. Moi qui vous parle, j'ai le souvenir, enfant, de rentrer de l'école tous les jours à midi pour manger à la maison. Et nous écoutions religieusement avec ma mère le feuilleton signé Furax qui passait sur les antennes de Paris Inter. D'autres vous parleront de Zapimax sur RTL qui a bercé leur enfance. Vous aviez des émissions qui aujourd'hui sont peut-être moins écoutées et c'est dommage, mais par exemple, Le Masque et la Plume, c'est une création en 1955. Le jeu des 100 000 francs par jour est créé en 1958 Et ce jeu, créé par Henri Kunick, est toujours aujourd'hui diffusé sur l'antenne de France Inter. C'est plus 100 000 francs par jour, c'est 1 000 euros. Bon, je pourrais vous citer aussi la famille du raton, par exemple, sur Luxembourg. Je vous parlais de mon enfance avec Signé Furax. Eh bien, quand j'étais adolescent, au début des années 60, nous écoutions avec énormément de plaisir tous les jours « Salut les copains » sur l'antenne d'Europe 1, alors que nos parents étaient peut-être plutôt à écouter justement France Inter ou une radio musicale, enfin radio musicale, France Musique en l'occurrence. Et ce qui reste de ça aujourd'hui, il y a bien sûr l'aspect politique que vous évoquez, mais c'est moins un aspect politique lié à l'histoire de la radio qu'à l'histoire de la démocratie en France, qui a longtemps considéré que les médias de service public étaient des médias au service du gouvernement et non pas au service de la nation et des citoyens. Mais dans la mémoire des Français, je pense que reste au moins autant un certain nombre d'émissions comme celles que je viens de vous citer ou d'autres que le SL2I ou que l'excellent Michel Droit dont nous parlions vous et moi tout à l'heure.
Quel regard portiez-vous donc à la veille de la libéralisation des ondes sur d'abord les radios pirates libres et puis ensuite sur les nouvelles radios et associatives entre
autres ? En 80, je suis journaliste à France Inter et délégué syndical central de Radio France. Ça vous situe un petit peu le personnage. Quel regard je porte là-dessus ? Je suis personnellement favorable à la libéralisation des ondes, mais à une libéralisation des ondes qui soit une libéralisation qui soit du professionnel. Je me souviens d'un débat que j'avais eu avec des représentants de radios associatives en banlieue parisienne où il était affirmé que n'importe qui pouvait faire de la radio parce qu'il suffisait de s'asseoir derrière un micro et de dire ce qu'on pensait. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça, c'est vraiment créer une communication ? Est-ce que ça, c'est vraiment amener l'information selon les critères éthiques de la fabrication de l'information ? Ou est-ce que c'est remplacer les œillères du gouvernement par les œillères d'un parti politique ou d'autres ? Donc, c'était un débat que nous avions à l'époque. Mais nous n'étions pas opposés, les gens progressistes, je dirais, à la création de ces radios, parce que l'outil technique ayant énormément changé avec l'arrivée de la FM, permettait de démultiplier l'offre et que, évidemment, le pluralisme, c'est la multiplicité des offres, encore plus que la multiplicité des contenus sur la même antenne. Donc le regard que l'on pouvait porter sur ces radios, comment dirais-je, alors vous dites pirate, c'est un mot que moi je n'ai jamais employé, mais ces radios libres, eh bien, étaient de penser qu'elles avaient leur place, quoi. On a été, comme beaucoup d'ailleurs, assez vite déçus quand on a vu que beaucoup de ces radios étaient en fait devenues des machines à cash pour des investisseurs.
Donc là, vous grillez ma question suivante, qui est quel regard vous portez aujourd'hui sur le paysage radiophonique français ?
Le paysage radiophonique français, bon, je n'ai pas en tête la répartition des audiences. Je pense qu'il y a une énorme diversité, notamment lorsqu'on est en dehors de Paris, ce qui est très souvent mon cas. On s'aperçoit qu'il existe énormément de radios, à but non lucratif ou pas d'ailleurs, qui ont un public, sans doute moins important qu'RTL, France Inter ou d'autres, mais qui ont un public, notamment en matière de divertissement, notamment en matière d'émissions de proximité, notamment en matière d'émissions sur la vie quotidienne ou un certain nombre de problèmes. Et que ces radios se sont quand même pour beaucoup d'entre elles, professionnalisées. Je travaille de temps en temps avec la Fédération nationale des radios libres et là, il y a très clairement une démarche qui consiste à faire des contenus qui sont des contenus qui vont au-delà des gentils amateurs qui s'assoient autour d'un micro, même si souvent ce sont encore des bénévoles, mais qui ont acquis une compétence qui n'a rien à envier à celle de Radio France sur beaucoup de points. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que la radio est quand même aujourd'hui en train terriblement d'évoluer. Les outils technologiques venus avec le numérique diminuent le nombre d'auditeurs qui font une écoute en flux continu, pour passer à un nombre d'auditeurs de plus important qui font une écoute à la demande. Et ça change très profondément la relation des hommes et des femmes de radio avec le public. Cela ne fera, à mon avis, que se développer pour aller à un type de radio, en dehors de radio associative, de radio qui sont sur un créneau très précis vers un public de niche, comme on dit aujourd'hui. On va de plus en plus aller vers des radios et musicales et d'information nationale, si vous voulez. L'arrivée d'ailleurs du DAB+, qui permet de la diffusion sur l'ensemble du territoire national des mêmes contenus et de la radio numérique terrestre va de plus en plus accélérer cette concentration de contenu.
Merci à Pierre Gans pour sa libre évocation du paysage radiophonique français dans l'après-guerre.